France Musique. C'est l'été sur France Musique. Grand large, Priscille Lafitte.
Bonjour à toutes et à tous, nous prenons le large cet été. Nous nous laisserons porter par les flots de la Méditerranée et nous accosterons de port en port pour nous poser dans les cafés et les théâtres de Barcelone à Tel Aviv, de Rome au Caire. Nous écouterons le mugissement du vent et le chant envoûtant des sirènes à Venise, Carthage et Baalbek. Pendant 10 jours, je vous embarque pour voir du pays, humer le grand large, entendre les échos de rive en rive, du doux ressac de la Grande Bleue.
Thank you.
Nous venons d'entendre tour à tour une musique turque de la région de Denizli sur les terres qui tutoient la mer Égée. On y distingue le zurna, sorte de hautbois taillé dans le buis, l'abricotier ou le genévrier, et muni d'une hanche double coupée dans le roseau. Ce zurna est accompagné d'une grosse caisse, le davoul. Il faut imaginer, sur la place d'un village anatolien, un samedi de noces, tôt le matin, alors que tout le monde est encore endormi, le zurna et le davoul commençaient une longue improvisation entrecoupée de quelques airs de danse. Ils joueront ainsi toute la journée pour escorter les mariés et leurs invités et accompagner ainsi le temps de la fête. En écho au zurna turc, nous avons entendu un autre instrument à hanche double de la même famille des hautbois que l'on trouve de l'autre côté de la Méditerranée cette fois. Une chamélie jouée pour accompagner la sardane, une danse catalane. Il faut former un cercle, les mains se joignent, les pieds exécutent des pas légers, sautillant sur la demi-pointe. La danse sardane est accompagnée d'un ensemble à vent et à percussion appelé la cobla, avec des chamélies de différentes tessitures, un tambourin et un galoubet, une petite flûte à trois trous. Aujourd'hui donc, première escale de ce grand voyage méditerranéen, nous jetons l'ancre dans le port de Barcelone, accueilli par une sardane écrite en 1919 par Enrique Casals, frère de Pablo Casals. Une sardane qu'il intitulait Heroica. Dans la même session d'enregistrement figure une autre sardane, cette fois écrite et dirigé par Pablo Casals lui-même.
Thank you.
Pablo Casals, dit Pau Casals en catalan, a écrit la musique pour cet orchestre Cobla. Il en a même supervisé directement l'enregistrement. Les sardanes, que l'on vient d'entendre, seront interdites durant le franquisme, mais beaucoup de Catalans la danseront malgré tout jusque devant la cathédrale de Barcelone. Le compositeur Enric Morera dira d'ailleurs de la sardane que c'est une danse, un hymne, un chant, c'est la Catalogne. Et Pablo Casals soutient avec enthousiasme la culture catalane.
Grand Large, France Musique, Priscille Lafitte.
En 1920, Pablo Casals fonde un orchestre qui porte son nom, l'orchestre Pau Casals. L'orchestre se produit pour la première fois au Palais de la musique catalane le 13 octobre 1920. Le palais est un édifice splendidement décoré de vitraux, de mosaïques et de ferronneries, un bijou du modernisme catalan inauguré en 1908. Ce Palau de la Musica était, sous le franquisme, le symbole de l'âme et de la culture catalane. Ce que nous entendons à l'instant est une archive, certainement la plus ancienne, de l'Orchestra Pau Casals. C'est un enregistrement de novembre 1929. Pablo Casals dirige la première symphonie de Beethoven à la tête de son orchestre. En 1920, Casals a 44 ans et il jouit déjà d'une aura internationale en tant que violoncelliste. Il est amené à jouer dans le monde entier, mais son désir se porte vers cette terre catalane. Qu'y a-t-il donc ? Alors, dans le paysage orchestral à Barcelone, il y a deux phalanges symphoniques qui jouent de manière sporadique, devant un public souvent clairsemé, sans programme établi. Pablo Casals veut donc donner à la ville un orchestre de renom qui prendrait sa place au sein des grandes formations européennes. Casals ne manque pas d'expérience. Il a dirigé, plusieurs fois, le London Symphony Orchestra et lors de ses voyages, il a maintes fois tenu la baguette. Le barcelonais fait sentir à Pablo Casals qu'il est un étranger dans sa patrie. La bourgeoisie se méfie de ce Casals trop républicain. peu importe. Casals finance cet orchestre sur ses propres deniers. Il engloutit ses cachets de concert dans ce qu'il considère être sa grande œuvre. Il engage 80 musiciens qu'il paye le double du salaire en usage. Son frère, Henrik Casals, dont on entendait une composition pour Kobla un peu plus tôt, est le premier violon. Le 13 octobre 1920, l'orchestra Pau Casals peut enfin programmer sa première représentation au Palais de la musique catalane. Cependant, Pablo Casals n'a réussi que la moitié de son pari, car il faut maintenant convaincre les mélomanes de Barcelone de venir. Dans la salle de 3000 places du Palais de la musique catalane, réservée pour 20 soirs, les rangs sont clairsemés. Pablo Casals repart donc en tournée et fait ses débuts de chef d'orchestre au Carnegie Hall à New York. Il ramène dans ses bagages les plus grands musiciens et chefs d'orchestre du monde. Ainsi, Alfred Cortot à la direction et Jacques Thibault au violon viennent prêter main forte à Pablo Casals. C'est l'amitié du mythique trio Cortot-Thibault-Casals qui fait œuvre ici autour du double concerto de Brahms. Pablo Casals mettra ainsi 7 ans pour que son orchestre soit reconnu comme l'un des meilleurs au monde et fasse salle comble.
Thank you.
Pablo Casals adosse son orchestre à la Société ouvrière de concert. Les temps sont durs en Catalogne, les ouvriers ne mangent pas à leur faim, la misère et la pauvreté sont le quotidien de beaucoup de Catalans. Cette association ouvrière de concert est créée en 1926. Elle est ouverte à tous les ouvriers gagnant moins de 500 pesetas par mois. Elle est interdite aux patrons et aux professions libérales. Pour une petite cotisation, les ouvriers peuvent assister à 6 concerts de l'orchestre. S'y ajoutent une bibliothèque, un chœur, une école de musique, ainsi qu'une revue musicale en langue catalane qui donne la parole aux ouvriers sur leur rapport à la musique. Casals met aussi en avant l'œuvre de son ami, compositeur, Enrique Granados, mort quelques années plus tôt, en 1916, en mer, alors qu'il tentait de relier par bateau Londres à Barcelone. Son bateau s'était fait torpiller par un sous-marin allemand.
Thank you.
L'un des complices musicaux de Pablo Casals n'est autre que le compositeur Manuel de Falla. Il est lui aussi amené à diriger l'orchestra Pau Casals, notamment pour créer son concerto pour clavecin avec Wanda Landowska en 1926. Falla s'intéresse au clavecin tel que le défend Wanda Landowska. Le travail de la claveciniste a largement contribué à la redécouverte du répertoire ancien, mais Wanda Landowska voulait également promouvoir des compositions neuves, que ce clavier à cordes pincées trouve de nouvelles couleurs en ce début de XXe siècle. La création a lieu le 5 novembre 1926, toujours au Palais de la Musique de Barcelone. 5 musiciens issus de l'orchestra Pau Casals sont choisis pour jouer sous la direction du compositeur. Aux côtés du clavecin figurent la flûte, le hautbois, la clarinette, le violon et le violoncelle. Manuel de Falla a enregistré cette œuvre 4 ans après sa création, en 1930. Lui-même s'assied au clavecin Pleyel. Il est entouré de musiciens français, notamment Marcel Moïse à la flûte et Marcel Darieux au violon. Marcel Darieux, premier violon de l'orchestre de Koussevitzky et à ce titre, créateur du premier concerto pour violon de Prokofiev en 1923.
Thank you.
Wanda Landowska, créatrice de ce concerto, avait déjà joué aux côtés de la phalange créée par Pablo Casals. C'était en novembre 1921, soit un an après la création de ce nouvel orchestre. Ils avaient donné ensemble le 5e des concertos brandebourgeois de Bach et le 22e concerto de Mozart. Le concerto pour clavecin de Faya, écrira Wanda Landowska, et je cite, pleine de beauté austère, et son caractère fier et âpre nous rappelle certains paysages sombres et passionnés de la Castille. Et combien mieux comprend-on l'influence espagnole de Domenico Scarlatti lorsqu'on entend le final du concerto de Faya, le merveilleux Vivace. L'écriture est très serrée, polyphonique, éclatante de logique et de force. Ce premier tour de Méditerranée en ce début des années 1920, je vous propose de faire résonner le clavecin de Manuel de Falla avec le kanoun égyptien, cet instrument à cordes pincées de la famille des psaltérions ou des sitars sur table et donc un cousin lointain du clavecin qu'on entend ici accompagné d'un violon. Cet enregistrement date de 1919, il a été gravé par le label Gramophone. C'est une œuvre du compositeur ottoman Hassem Bey, né en 1851, mort en 1929, et interprété par des instrumentistes égyptiens. Thank you. Demain, nous entendrons des voix se répondre, depuis celle de Caruso, qui s'éteint à Naples en 1921, jusqu'au chanteur de flamenco à Grenade. Mais laissons à Pablo Casals le dernier mot de cette première émission méditerranéenne. Il fait un clin d'œil à Naples dans cette sérénade napolitaine signée Giovanni Sgambati. Merci à toute l'équipe qui a contribué à cette série Grand Large. Valérie Lavalard à la technique, Patrick Lérisset à la réalisation, Pauline Boisaubert pour la documentation et la mise en ligne. Merci également aux équipes de la discothèque de Radio France pour leurs recherches et leurs conseils. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.